s'en va par où? On s'en va par où? On s'en va par où? Premier essai collant!
Pour tout savoir ce qui se passe dans le monde du football, secondaire, collégial, universitaire et professionnel, la chronique foot avec Oli Turcotte.
Chronique football au plus beau moment pour moi de l'année du football parce qu'on avait 4 matchs en fin de semaine de grande qualité. Les Divisional Playoffs dans la NFL, on en parle avec notre chroniqueur Olivier Turcotte. Bon lundi.
Pareillement.
Il y avait du gros football en fin de semaine. Il y a 3 matchs qui m'ont moins surpris. On va revenir sur la surprise dans quelques instants. Mais ouais. D'abord, ce qui lançait notre week-end de foot, Vikings-Niners, c'était le premier match.
Ouais, puis les partisans des Vikings sont habitués hein, de vivre des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Malheureusement, là, c'est un groupe de partisans qui l'a vraiment pas facile au cours des dernières années. Ça prend une bonne santé cardiaque pour être un fan invétéré des Vikings. Quand même, il avait réussi à se rendre jusqu'en finale de division, ultimement. Donc, c'est certainement pas une mauvaise équipe que celle des Vikings. Elle a prouvé qu'elle était capable de remporter des gros matchs cette année. Cousins a notamment fait cette preuve-là au poste de corps arrière. Mais là, la commande était grosse contre les 49ers de San Francisco. Jimmy Garoppolo est embarqué sur le terrain avec son attaque, a lancé une passe de toucher sur la première séquence offensive et jamais après ça, on a senti que les Vikings étaient dans le coup. Le pointage final pourrait donner l'impression que c'était relativement serré, 27-10. Ça, c'est un écart de quand même 3 possessions. Mais que, comme partisan, regardant ce match là, j'ai jamais senti que les Vikings allaient être en mesure de se défendre. Puis je dois dire que j'étais assez content de voir les 49ers bien faire dans ce contexte-là parce que...
Pourquoi?
Parce que Jimmy Garoppolo a encore des preuves à faire. Il est revenu d'une grosse blessure cette année. Il a un gros contrat. Lui, c'était un backup à Tom Brady, là, il n'y a pas si longtemps, si on s'en rappelle bien. Puis c'est une formation qui a une énorme histoire dans la NFL, les 49ers. L'histoire récente est peut-être moins rose un peu. Donc, dans ces circonstances-là, j'avais envie de voir des 49ers être aussi bons en saison régulière, en éliminatoire qu'ils l'ont été en saison régulière.
Et là, t'es rassuré ou c'est
absolument,
peut-être l'opposition?
Oui, c'est encore une bonne équipe. Je pense pas que c'était la plus grosse opposition qu'ils vont avoir. Elle va être de plus en plus difficile, cette opposition-là, d'ici au Super Bowl, si l'équipe souhaite s'y rendre. D'ailleurs, je dois avouer que je me plaçais les Ravens au Super Bowl et j'ai été dans l'erreur, mais comme tu le dis, on va y revenir à ce match-là. Ouais. Je pense que Jimmy Garoppolo est un excellent corps arrière pour cette équipe-là des Niners, qui, au même titre que les Titans, entre autres, ont compris que t'as pas nécessairement besoin de lancer pour 500 verges si tu veux remporter un match de football éliminatoire.
Oui, puis rappelle-moi ta statistique de la semaine passée. Tu parlais des équipes qui avaient beaucoup de verges offensivement par la course versus la passe.
Ouais,
la course qui marchait cette année.
C'est ça. Les équipes qui ont eu du succès par la course cette année se sont toutes classées pour les éliminatoires et ceux qui en ont eu plus par la passe n'ont pas nécessairement toutes faites les éliminatoires. Donc, il y avait quelque chose d'assez intéressant dans ces statistiques-là. Et ça a paru quand même là, au niveau du match des Vikings contre les Niners. C'est combien de verges par la course pour les porteurs de ballon des Vikings? Là, on a un total de 21 verges seulement. Et puis si tu t'en vas regarder du côté de San Francisco, on a Tevin Coleman qui est à 105 verges, Mostert est à 58, Brida qui a couru le ballon 8 fois, c'est 17 verges. C'est un total qui finit par se rapprocher là, des 200 sans l'atteindre exactement. Donc
Pour
le ballon,
le match,
tu contrôles le cadran. Tu sais, je me répète un peu d'une semaine à l'autre, mais tu contrôles le match, tu contrôles les lignes d'engagement, tu augmentes tes chances de l'emporter.
Puis c'est bien trop facile et prévisible pour la défensive adverse. Écoute, les Vikings avec 21 verges au sol, et du football de rattrapage, tu sais que l'équipe est obligée de lancer le ballon. C'est un jeu d'enfant pour le coordonnateur défensif des Niners à ce moment-là.
Tu vas concéder les courts-jeux, tu vas placer moins de joueurs dans la boîte défensive. Là. La boîte, elle est imaginaire entre les secondaires et la ligne défensive, si on veut. Tu en places un peu moins dans la boîte, tu peux en mettre plus dans la tertiaire qui vont servir à couvrir les jeux aériens parce que tu sais que c'est ça qui s'en vient.
Tu minimises les longs jeux. Exactement. Mais même à ça, les Vikings n'ont pas été impressionnants. T'sais, ils auraient pu monter. Moi, je pense à Tom Brady. Quand c'est le temps de monter le terrain, un coup de passe de 5-6 verges, il le fait. Il l'a toujours fait, mais les Vikings n'ont pas démontré ça non plus.
Pourtant de bons receveurs de passe. Thielen, Diggs, ces deux gars qui sont capables d'étirer une défensive, justement. Mais ils ne sont pas parvenus à être des facteurs déterminants dans ce match-là. Donc, chapeau aux Niners qui au moins vont pouvoir se rendre jusqu'au final de conférence donc la semaine prochaine.
Voilà. L'autre match, écoute, moi, c'est ma surprise en fin de semaine. Mm-hmm. Les Ravens de Baltimore, puis je parlais avec Adam Hautclair. On va en parler tantôt d'Adam Hautclair, d'Adam Lachance aussi, de nos boys de football qui sont actifs ces temps-ci. Adam Hautclair me disait la semaine passée, j'ai beaucoup aimé voir Lamar Jackson jouer, et c'est peut-être cette équipe-là que je vois aller au Super Bowl. Puis c'était pas le seul qui disait ça.
Même, je t'avais dit la même chose.
Même affaire de ton côté.
Je pensais que les Ravens s'y rendraient. J'étais pas capable de dire contre quelle équipe, ni même laquelle des deux éventuellement l'emporterait, mais avec la saison qu'on connaît les Ravens, c'était difficile de croire qu'une équipe allait les arrêter.
Et là, au sol, on va revenir encore avec le jeu au sol des Titans dans les prochains instants. Mais dis-moi ce qui s'est passé avec les Ravens pour qu'eux soient pas capables de faire de points.
L'attaque des Titans a été bonne. Derrick Henry a eu un match de, je pense, c'est 195 verges au sol. Et permets-moi d'utiliser l'expression que coach Mike Garneau utilisait quand je jouais au football pour les Tigres, leur pilé dans la face. Derrick Henry a pilé dans la face de la défensive des Ravens. S'il est capable de faire ça, c'est parce qu'il y a une bonne ligne à l'attaque. Il y a Taylor Lewan qui revient en tête. C'est un excellent joueur de ligne, celui-là. Parmi le groupe de 5 gros bonhommes qui font le travail. Mais il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger dans ce match-là, c'est que les Ravens de Baltimore, avec le joueur le plus utile de la NFL cette année, Lamar Jackson, n'ont pas été en mesure d'inscrire plus que 12 points en attaque. Ça veut dire qu'il y a une défensive des Titans quelque part qui est venue étouffer la menace avant qu'elle existe véritablement.
Et on n'a pas entendu parler parce que ce running back-là des Titans fait le gros travail, puis c'est lui qui inscrit les points, puis c'est lui que tu vois à SportsCenter puis à Sport 30 le matin. Mais on n'a pas parlé beaucoup de la défensive des Titans cette année, à moins de vraiment suivre ça de très très près. Et là, est-ce que ça veut dire que la défensive des Titans is for real? Est-ce que cette défensive-là va peut-être les amener plus loin? On se prononcera tantôt, mais c'est vrai. Donc, c'est pas juste Lamar Jackson qui a choqué, c'est aussi la défensive de l'autre équipe qui était...
Moi, si je suis un entraîneur de n'importe quelle équipe qui est dans les éliminatoires en ce moment, je veux pas croiser les Titans du Tennessee.
C'est l'équipe Cendrillon.
C'est une équipe qui y croit aussi, puis il y a rien de plus dangereux que ça. C'est une équipe qui est allée en Nouvelle-Angleterre, au Gillette Stadium, battre les champions en titre du Super Bowl l'an dernier, les Patriots. C'est une équipe qui vient de se rendre chez les Ravens de Baltimore, qui ont comme corps arrière le joueur le plus utile de la NFL dans la dernière saison. La meilleure attaque au sol qu'on a vue depuis des années, peut-être même dans l'histoire de la NFL, et qui a étouffé la menace avec un gain de 28-12. Je ne voudrais pas être l'équipe qui va affronter les Titans du Tennessee la semaine prochaine, en l'occurrence les Chiefs de Kansas City. Et là, le fait que ça va se jouer au Arrowhead Stadium, ce match-là, ne veut rien dire. Parce que les Titans sont devenus des Road Warriors, ils remportent leur match à l'extérieur.
C'est vrai.
Et là, ils ont toutes les raisons du monde de croire qu'ils sont capables de remporter ces matchs-là. Et avec Derrick Henry, éventuellement les Chiefs, on pourra en parler peut-être en détail une fois qu'on aura analysé le match des Chiefs, mais... on va être capable de contrôler le ballon.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Si on contrôle le cadran, on empêche Pat Mahomes d'embarquer sur le terrain avec les armes qu'il a, les Tyreek Hill, les Travis Kelce, ben là, écoute, les Titans sont l'équipe la plus dangereuse, je pense. C'est comme que... je pourrais prendre l'exemple de quelqu'un qui se noie. Je dis pas que les Titans se noient, mais c'est l'équipe la moins bien classée de toutes celles qui restent en éliminatoire. Puis quand quelqu'un se noie, ça s'agrippe après n'importe quoi puis ça tire pour se sauver eux-mêmes. Ils ont tiré sur le chandail des Patriots, ils ont tiré sur le chandail des Ravens, et là, ils commencent à peine à sortir la tête de l'eau. Mais s'ils veulent prendre une grande bouffée d'air, ça va se faire au Super Bowl. Donc, il faut qu'ils tirent sur le chandail des Chiefs pour se sortir de l'eau. Je veux vraiment pas être l'entraîneur-chef des Chiefs pour la fin de semaine prochaine. Puis, chapeau à l'équipe des Titans du Tennessee qui, pendant la saison, a pris la décision audacieuse et risquée d'asseoir Marcus Mariota, un haut choix de repêchage,
oui,
au profit de Ryan Tannehill, qui n'avait rien cassé avec les Dolphins de Miami lorsqu'il a été partant à cet endroit-là. Puis on se retrouve avec une équipe des Titans qui est dominante.
Oui, c'est vraiment fameux. C'est une belle histoire que celle des Titans. Ouais. Il y a juste une affaire qui m'a déçu dans ce match-là, j'ai trouvé. Puis là, c'est peut-être un manque d'expérience ou de maturité, mais je voyais des signes de frustration de Lamar Jackson puis d'autres joueurs des Ravens. Je sais pas si tu voyais le visage, puis les petites poussées, puis maudit, puis mon receveur l'a pas pogné. Ouais. Puis je sentais une frustration que tu vois pas chez les grands joueurs d'expérience. Écoute, qui se tirent de l'arrière.
Là, je vais faire un parallèle avec le prochain match qu'on va analyser, voilà, celui des Chiefs de Kansas City.
Patrick Mahomes n'avait pas cette frustration-là, lui, quand il tirait de l'arrière 24-0.
Ça a été 24-0 à la fin du premier quart, puis je sentais quand même, il n'y avait aucune énergie du côté des Chiefs. Le stade était sous le choc. À partir du moment où les Texans ont réussi à inscrire des points aussi rapidement, notamment sur un botté de dégagement bloqué, ramené dans la zone des buts. Mais on n'a pas paniqué, et en même temps, moi-même, seul dans le fond de mon sous-sol à regarder ce match-là, j'avais encore peur des Chiefs. C'est parce qu'ils sont capables de frapper à la force, à la vitesse de l'éclair, ce qu'ils ont fait. Mais contrairement, comme tu le dis, très bien observé, Lamar Jackson semblait pas avoir les outils ou la maturité, les outils qui viennent avec la maturité pour gérer cette situation-là. Et c'est une équipe dont le pain et le beurre en attaque, c'était le jeu au sol. Et quand tu perds, tu peux moins jouer au sol. Faut que tu lances le ballon. C'est ce qui fait en sorte que Lamar Jackson a lancé 2 interceptions. Il s'est fait arracher le ballon des mains une fois également. Ça a été recouvré du côté des Titans du Tennessee. Donc, non, on a manqué d'outils, mais il y a plusieurs joueurs qui vont être là encore en place pour un bout de temps. Lamar Jackson a prouvé tout au long de la saison régulière qu'une attaque avec un corps arrière mobile, quoi qu'il lance très bien le ballon, là, est capable de se démarquer dans la NFL. Et je pense que c'est un modèle qui peut très bien fonctionner en éliminatoire. Ça va faire partie de l'apprentissage du côté des Ravens. Mais pour en revenir aux Chiefs, écoute, chapeau aux Texans. Moi, après le premier quart, j'en revenais pas que c'était 24-0 pour les Texans de Houston.
Moi non plus.
Il y a un problème. Chapeau aux analystes et annonceurs qui n'ont jamais utilisé l'expression « Houston, we've got a problem », d'ailleurs. Je l'écoutais et je l'attendais.
Moi, je l'envoyais par texto un peu.
C'est ça, j'ose espérer, parce qu'à 24-0, c'était spectaculaire. Mais là, les Chiefs sont sortis de leur torpeur à partir du deuxième quart.
Un retour de beauté.
Ouais.
Au début, un long retour de beauté. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être... Tu sais, quand on parle de l'étincelle,
c'est
là,
ça,
dans
il
le
y
sport,
quoi, deux
là,
jeux après ça, puis soudainement, les Chiefs, ça fait 7 points au tableau.
La petite étincelle, un long retour de 50-60 verges, je sais plus combien.
Et c'est à cette vitesse-là que les Chiefs de Kansas City peuvent frapper. C'est spectaculaire à quel point ça ne leur prend pas de temps pour mettre des points au tableau. Ils l'ont prouvé. C'était 24-0, et puis dans le fond, les 3 autres quarts du match, le deuxième, le troisième et le quatrième, ils ont été dominés 51-7 en faveur des Chiefs de Kansas City. C'est énorme. J'ai rarement vu un revirement de situation aussi intense que ça. Patrick Mahomes a réussi à garder son calme. Là, ses receveurs ont commencé à attraper des ballons parce qu'il y a eu plusieurs échappées qui ont coûté cher aux Chiefs en début de match.
Sur des passes précises,
c'est ça,
des jeux
un gars comme
faciles.
Travis Kelce, là, qui est un excellent joueur, un des meilleurs ailiers rapprochés de la NFL, qui n'était pas en mesure d'attraper les ballons. Je dois dire que je reconnaissais pas l'équipe des Chiefs de Kansas City. J'ai commencé à les reconnaître à partir du deuxième quart. Écoute, c'est 28 points qui ont été marqués au deuxième quart. 4 passes de toucher de Pat Mahomes dans ce deuxième quart seulement. ça égalise un record, si je ne m'abuse, si ça n'a pas établi un.
Mais ils ont pas arrêté ça là.
Non, ben non, absolument.
7 drives de suite, 7 séquences de suite, ils ont fait des touchés. Aucune fois on dégage. C'est un record de la NFL.
Je sais pas, j'ai pas pu analyser les statistiques. Je dois dire que mon équipe de recherchistes n'était peut-être pas assez grande.
On a les moyens qu'on a.
On transfère la demande à nos patrons si jamais ils veulent me mettre un analyste football. Mais sans blague, là, par exemple, je suis pas mal certain que ça en représente un. Dans un match éliminatoire, ça, c'est sûr.
7-7, là. 7 fois que tu as le ballon, 7 fois que tu vas faire des touchés,
pas
des placements,
pas de dégagement, pas de... Non, ça, c'est impressionnant.
Ça, c'est 49 points back-à-back.
Exactement.
Non-stop.
Les joueurs joueurs sont devenus assez impressionnants là-dessus. Donc, mais chapeau aux Chiefs, au moins qu'on a pu reconnaître. Et les partisans des Chiefs seront contents de savoir qu'ils vont jouer la semaine prochaine, mais ils accueillent les Titans, puis c'est pas fait. Avant de parler des matchs de la semaine prochaine, ben le dernier match qui se jouait hier soir, c'était les Packers de Green Bay qui recevaient les Seahawks de Seattle. Moi, j'avais pas donné cher de la peau des Seahawks parce que ça a tout pris pour battre une équipe décimée par les blessures des Eagles. Les Seahawks avaient quelques blessures eux-mêmes, mais quand même à des positions importantes, notamment comme porteur de ballon. On avait Marshawn Lynch, mais il n'y a pas la fougue qu'il avait il y a 5 ans,
c'est plus
par
jeune
exemple.
Jument.
Non, exactement. Écoute, les Seahawks ont quand même donné une belle opposition aux Packers, mais au Lambeau Field, ce sont les Packers d'Aaron Rodgers qui ont eu le dessus. Dans les faits, ils n'ont jamais véritablement été menacés parce que à la demi, ce match-là, c'était 21-3, si ma mémoire est bonne. Par la suite, troisième quart a été un peu plus dur pour les Packers. On a accordé 2 touchés, puis on en a marqué un seul, mais on avait encore une avance. Et puis, la défensive des Packers a réussi à plier sans casser, accordant quelques points aux Seahawks. C'est un match qui s'est terminé 28-23. Un premier essai qui a été accordé de façon très, très, très généreuse à 2 minutes à faire au match. Là. Une passe d'Aaron Rodgers qui est allée à Jimmy Graham, qui, selon moi, était une bonne verge en arrière du marqueur de premier essai. Mais qui suis-je pour rendre une décision? Les arbitres sont payés cher pour ça. Je l'ai quand même trouvé douteuse un peu. Être un fan des Seahawks, j'aurais été déçu. Être un fan des Seahawks, il y a quand même une séquence dont je vais me rappeler toujours. Puis je suis même pas un fan des Seahawks, puis je vais me rappeler tout le temps. Moi, je suis un jumeau, tu sais que j'ai une soeur jumelle. Les jumeaux Shaquille et Shaquem Griffin, on en connaît un des deux. Il y en a un des deux qui est un All-Pro, puis il y en a un des deux qui lui manque une main.
Ah.
Puis les deux jouent pour les Seahawks de Seattle, et ils ont enregistré un sac du corps ensemble. On appelle ça un stunt blitz, les deux qui se sont dirigés vers le corps arrière au même moment, puis les deux qui ont réussi à saquer Aaron Rodgers, si tu me permets l'anglicisme, ensemble. Un très beau moment familial,
c'est drôle,
si tu veux mon avis, aller chercher un sac du corps en équipe, entre jumeaux, contre Aaron Rodgers dans un match éliminatoire. Il y a au moins ça qui est dans les belles histoires. Et les Seahawks, un peu comme j'ai défendu la défaite des Eagles, les Seahawks avaient des blessures, se sont rendus plus loin que plusieurs pensaient qu'ils se rendraient cette année. Marshawn Lynch a réussi à ajouter 2 touchés. Je pense qu'il est 4e de tous les temps pour le nombre de touchés au sol en éliminatoire. Donc, c'est il ajoute à sa légende Beast Mode. Marshawn Lynch, donc un excellent match, mais encore là, fallait être un fan invétéré des Packers pour s'inquiéter parce que d'un point de vue extérieur, là, d'un point de vue non émotif, j'ai pas vraiment senti que les Seahawks étaient menaçants dans ce match-là.
Là maintenant, ben, il reste, Olivier, 4 équipes dans la NFL.
Ouais.
Un intrus dans le top 4, là, les Titans du Tennessee qui vont jouer contre les Chiefs de Kansas City dimanche à 3h05 en après-midi.
Ouais.
Et il y aura également l'autre match, les Packers contre les Niners qui se présentaient à 18h40 à Fox. Qu'est-ce qui t'allume là-dedans dans ces deux duels-là?
Le fan des Eagles que je suis aime quand même Andy Reid, l'entraîneur des Chiefs de Kansas City. Je pense que avec tous les outils qu'on a en attaque, les Pat Mahomes, les Kelsey, les Hill, les Sammy Watkins, on peut nommer l'attaque complète des Chiefs de Kansas City. Je pense que la personne qui a le plus d'influence sur le succès de cette équipe-là, c'est pas Pat Mahomes qui a été MVP l'an passé. Je pense que la personne la plus utile, c'est Andy Reid. C'est un esprit tellement aiguisé. Il est capable de dessiner des jeux de football impressionnants, puis il y en a encore en banque, lui-là. Là. Il y a des jeux qui gardent pour le Super Bowl. Il y a des jeux qui gardent pour le championnat qui va se jouer en fin de semaine, parce que là, c'est le Championship Sunday qui s'en vient. On va connaître qui sont les champions respectifs de l'Américaine et de la Nationale. J'aime Andy Reid, j'aime les Chiefs de Kansas City qui vont jouer au Arrowhead Stadium. Les Titans n'arrêtent pas de remporter des matchs émotifs, donc peut-être vont-ils se fatiguer. J'ai vraiment aimé le point de presse de Derrick Henry, le porteur de ballon des Titans du Tennessee, en fin de semaine. Après le match, il avait l'air brûlé. Il n'avait pas envie de parler trop de ses exploits. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air de vouloir aller se coucher.
Puis ça, t'aimes ça?
J'aime ça, savoir qu'un gars a tout laissé sur le terrain. J'espère qu'il aura le temps de se reposer. J'espère que sa ligne offensive et le reste des Titans vont se préparer à rentrer au boulot parce que le défi est d'envergure. Mais je pense que les Titans du Tennessee peuvent surprendre les Chiefs de Kansas City.
Pardon?
Parce qu'ils ont surpris les Pats, puis parce qu'ils ont surpris les Ravens. Il n'y a rien d'impossible pour cette équipe-là. Et les Chiefs n'ont pas été parfaits cette année. Oui, on a manqué Pat Mahomes pendant un bref instant pendant la saison. Mais les Chiefs n'ont pas été les Chiefs de l'an passé non plus. Donc, je crois, tout ça va se jouer si la défensive des Titans est capable de tenir le fort. Mais s'il y a un pari audacieux à prendre, c'est celui des Titans. Je le dis tout le temps, si tu t'invites dans les éliminatoires, tout peut se produire. Je ne suis pas le seul à le dire. Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé cet adage-là. Mais les Titans ont le momentum en ce moment. Je pense que c'est l'équipe la plus dangereuse. Donc, c'est quand même les Chiefs qui vont être favorisés parce qu'ils ont fini devant les Titans. Mais j'aime vraiment les Titans. Puis pour ce qui est de l'autre duel, Packers contre Niners...
Sur qui on met nos sous?
Écoute, j'ai trop envie de voir Aaron Rodgers au Super Bowl une fois de plus.
Yes.
Et je pense pas que... Les Niners ont deux équipes. Ils ont celle-là qui gagne, puis ils ont celle-là qui perdent. C'est vraiment deux équipes différentes. C'est pas la même équipe qui était à un jeu près de l'emporter. J'ai eu l'impression pendant la saison qu'il y avait deux équipes des Niners, et d'une semaine à l'autre, elle peut changer, tandis que les Packers ont été sur une pente ascendante pendant la fin de la saison, entre autres. J'ai envie de penser que les deux équipes qui visitent pourraient l'emporter en fin de semaine. Mais en même temps, j'avais dit que les Ravens seraient au Super Bowl. Ne vous fiez pas à moi pour vos paris.
Ouais, mais celle-là, tout le monde l'a échappé, Olivier. En tout cas, tout le monde pensait que les Ravens joueraient
exactement
en fin de semaine prochaine.
C'est ça. Puis j'aime les histoires d'underdogs, je l'ai souvent dit, puis je vais le répéter. J'aime voir les sous-estimer l'emporter. Ouais, je vais y aller pour les deux équipes qui visitent, moi.
Wow.
C'est okay. Mes prédictions, mais encore là, hein, ça vaut ce que ça vaut. Je suis chroniqueur football parce que je te l'ai offert aussi. Hein.
C'est
faut,
ça.
Faut qu'on le dise, ça.
Puis que j'ai les mêmes budgets que toi aussi pour tes recherchistes. Non, j'aime ça beaucoup. J'aime ça, José. Puis tes points sont bons. Puis c'est possible, ça va jouer sur le terrain. Et c'est la beauté de ce sport-là. On l'a vu en fin de semaine avec les Ravens qui se sont fait surprendre et avec les Chiefs qui ont comblé un retard de 24 points dans leur rencontre. J'ai le goût de te parler un peu de gars de chez nous également, Olivier, dans quelques instants.
Ouais.
Mais auparavant, la grosse nouvelle aujourd'hui,
ben oui,
c'est Danny Machocia qui a été nommé comme directeur général des Alouettes de Montréal.
Très bonne nouvelle, très bonne tête de football. On connaît son amour pour les Alouettes de Montréal. Il avait travaillé dans le nid des oiseaux avant de finalement aller du côté des Eskimos d'Edmonton comme entraîneur-chef, mais également comme directeur général. Tout le monde peut se réjouir de cette annonce-là avec raison. On a un gars d'ici qui connaît la place, qui connaît le football amateur du Canada. Et il y a deux bémols que je veux amener à l'embauche de Danny Machocia. Il s'est fait clairer de sa job de directeur général des Eskimos d'Edmonton il y a quelques années.
Dizaine d'années, il n'avait pas eu de succès.
C'était en début de saison, il n'avait pas eu beaucoup de succès comme directeur général. Et son réseau de contacts aux États-Unis n'est pas le plus garni, selon ce qu'on peut en comprendre.
Puis c'est important dans CFL pour gagner d'avoir des bons Américains.
Mais s'il est capable de bien s'entourer, j'ai aucun doute qu'on a des équipes de recrutement professionnels qui sont capables de faire ce travail-là. Je doute pas que Danny Machocia, on parle de lui dans le nid des Alouettes depuis 4-5 ans aussi. Hein. Depuis que ça va mal, on parle de le nom de Danny Machocia revient. Il a pris le temps de bien faire les choses, je pense. On peut se réjouir de cette annonce-là. Pour ce qui est du président Mario Cecchini, ben je ne le connais pas personnellement. C'est un homme qui a un CV très intéressant dans le monde des médias au Québec. Je pense qu'il est capable de faire un excellent travail comme président des Alouettes, et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de bien s'entourer. Machocia est une embauche intelligente, non pas audacieuse. On l'a vu venir. RDS l'annonçait vendredi, ça d'ailleurs, par la voix de Didier Méjus. Donc, mais il a déjà un bon quart arrière partant. Il a déjà un bon entraîneur. Donc, tant pour le président que le directeur général, là, c'est deux dossiers assez intéressants qui sont réglés d'avance.
Le gros défi, c'est de ne pas faire d'ingérence. T'sais, ça a été un coach, Machocia, plus de succès comme coach que comme DG. Mmh. Il a vraiment bien fait avec le programme des Carabins de l'Université de Montréal des dernières années. Mais là, il est DG, il n'est pas coach.
Ouais. D'ailleurs, les Carabins ont annoncé que c'est le coordonnateur à l'attaque, dont le nom m'échappe, là, qui allait prendre temporairement les rênes d'entraîneur-chef, mais ça va être une embauche, une nouvelle embauche pour le poste d'entraîneur-chef chez les Carabins de Montréal après le départ de Danny Machocia. Donc, le remplacement qu'on a annoncé n'est que temporaire en ce moment. Pour ce qui est de l'ingérence, écoute, la meilleure chose qu'on peut se souhaiter en tant qu'amateur de football québécois, en tant qu'amateur des Alouettes, c'est que Machocia et Kerry Jones développent une belle relation. Et c'est deux gars qui connaissent bien le giron du football canadien pour y avoir œuvré plusieurs années dans les deux cas. je nous souhaite que ces deux-là développent une belle chimie. Je m'étais déjà souhaité la même chose lorsqu'on avait acquis un Alexander Semin avec le Canadien de Montréal. Tu sais, on peut s'en souhaiter des choses. Ouais. On ne peut pas savoir comment deux êtres humains vont s'entendre. Mais si Danny Machocha et Carey Jones peuvent bien s'entendre, qu'on ait une belle ambiance dans les bureaux qui va descendre jusque dans le vestiaire des Alouettes, ben le futur sera très certainement intéressant.
Parlons de nos athlètes, puis on va le faire plus tard aussi à l'émission tantôt. Adam Hautler arrive, lui, des États-Unis. On a eu le plaisir de le recevoir à Sportmax l'autre jour. Il était à Toronto en transfert d'avion. Et puis, il nous confiait qu'il a parlé avec les équipes de la CFL, mais également quelques équipes de la NFL. On dit, voyons, c'est qui lui? On va prendre le temps de jaser quelques minutes avec. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Faut pas s'énerver avec ça. Mais c'est certainement une très bonne nouvelle, parce qu'il aurait pu revenir de là et dire « ben j'ai bien joué, puis j'espère que je me suis fait remarquer par des scouts, là, voyons, des dépisteurs. »
Des recruteurs, dépisteurs.
Exactement. Mais là, il revient de là, puis il y a eu des conversations avec des équipes. Ça ne veut rien dire.
Puis les équipes jasent avec des centaines d'athlètes.
Exactement. Le travail des équipes, c'est d'aller recruter des Écoute, s'il y a un gars qui mesure 6 pieds 8 dans un collège, même s'il n'a jamais fait de sport de sa vie, ils vont trouver le tour d'aller y parler pour lui demander « Toi, admettons, c'est un historique de blessure dans ta famille, toi, admettons. » Donc, je suis tranché en deux parce que ça ne veut strictement rien dire. Faut pas s'exciter avec ça. Mais Adam a eu des conversations avec des équipes de la NFL, ce que bien des jeunes athlètes n'ont pas.
Non.
C'est une chance que bien des athlètes n'auront jamais. J'espère qu'Adam a réussi à tirer le maximum de l'expérience. Il n'y avait pas de match en tant que tel qui était joué en lui. C'est un espèce de camp d'entraînement.
Ben, c'est un scrimmage qui disait sans unité spéciale. Fait des drives offensifs, des drives défensifs, des vrais jeux avec des vraies formations, mais pas un match.
Il a pu montrer ses capacités athlétiques et c'est ça le point de ces participations-là à des événements aux États-Unis. C'est de démontrer tes capacités athlétiques et physiques. Parce que pour le reste, les entraîneurs dans la NFL, c'est les meilleurs au monde. Donc, si tu as des aptitudes physiques, mentales aussi, là, on va réussir à en tirer le maximum une fois que tu vas être dans le giron d'une équipe. Donc, c'est certainement une bonne chose que son nom soit apparu sur la liste de quelques équipes. Qu'est-ce que ça voudra dire par la suite? Peut-être rien, malheureusement. Il va peut-être juste rester un nom loin dans la liste pour un éventuel rappel sur une équipe de pratique, pour un essai, pour une signature d'agent libre. Même son frère Anthony Hautler n'avait pas été repêché, il faut se le rappeler, il avait été signé comme agent libre après le repêchage. Donc, mais c'est certainement une bonne nouvelle que ces conversations-là aient eu lieu, puis je pense qu'Adam a quand même un avenir intéressant dans la Ligue canadienne. C'est pas assuré, il faut qu'il continue de travailler pour tout ce qu'il voudra avoir, mais il a une très très bonne tête de football et d'excellentes aptitudes physiques. Il faudra qu'on trouve sa position précise aussi, hein. Il avait été hybride là, demi-défensif et secondaire dernières années.
Safety, joue du secondaire.
Exactement, je pense que c'est comme demi-défensif, que ce soit comme demi de coin, comme slot cornerback ou encore comme safety, comme demi de sortie, excuse-moi. Il y a beaucoup d'anglicisme quand on parle de football. On peut tendre à la perfection, mais ne jamais l'atteindre. Et c'est ce qu'Adam va faire.
Eh bien, donc, je retiens qu'on est bien fiers. On part pas en peur, mais on reste très fiers de cet exploit-là.
Je pense que ça vaut la peine.
OK. Il y a aussi, mercredi, un autre Adam de chez nous pour qui on aura de bonnes pensées. Adam Lachance, joueur de ligne qui a joué avec les Patriots à côté de chez nous, puis qui est maintenant avec les Cougars de Champlain-Lennoxville. Lui, il se trouve aux États-Unis au International Bowl. Les meilleurs joueurs de high school américains sont là, qui vont jouer contre le monde. Le monde, c'est Japon, Mexique, Canada, mal. Là.
Il y a comme une équipe U18 du Mexique, une équipe U17 du Japon. Là, je suis en train de les mélanger, mais c'est à peu près ça comme événement. On invite à peu près tout ce beau monde-là à venir se mesurer aux équipes américaines. C'est une chance exceptionnelle qu'il a, ce jeune homme-là, juste de se retrouver dans les installations des Cowboys de Dallas.
C'est fou, hein? Ça doit être impressionnant.
C'est le plus gros stade de la NFL. C'est l'équipe, c'est America's Team. Hein? Donc, juste qu'il profite du fait de pouvoir être sur ce terrain-là, dans ces installations-là, juste là, c'est de l'expérience qui rentre à vitesse grand V. Et puis, il y a la chance de se faire remarquer par des recruteurs. C'est certainement une autre opportunité en or, mais juste de profiter du moment. C'est un jeune homme. Hein? On ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Il y a des carrières de football qui s'arrêtent pour... pour bien des raisons. Hein. Le jeune homme peut décider qu'il est tanné de jouer au football, oui, puis c'est tout.
Mais il pourra dire qu'il a joué sur le terrain des Cowboys. Tu disais que les recruteurs parlent de gabarit, ben il l'a, lui-là.
Je suis pas en train de dire qu'il prend sa retraite non plus, mais ça peut arriver. Il faut respecter ces décisions-là que prennent les jeunes pour leur santé, pour leur avenir. Mais peu importe ce qui va arriver dans le futur pour ce jeune-là, il est en train de fouler le terrain des Cowboys de Dallas.
Alors, profite-en, Adam. On va te souhaiter ben du fun là-bas mercredi, puis on va le recevoir d'ailleurs bientôt à l'émission pour en jaser. Ça met, je pense, la table pour les prochains matchs de foot qu'on aura en fin de semaine. Et faut pas oublier également ce qu'on a ce soir.
20h, les Tigers vont l'emporter.
Bonne prédiction.
Les Tigers de Clemson qui jouent contre les Tigers de LSU. C'est la finale, donc, championnat américain là, de la NCAA. Ça se joue en Nouvelle-Orléans au Mercedes-Benz Superdome. C'est l'endroit où les Saints ont joué leur saison. Donc,
allez, regardez ça. Si vous ne l'avez pas regardé puis vous vous dites « Non, non, j'en ai assez de la NFL », il en reste juste un match, là. Puis vous verrez même pas de différence entre le calibre de ce game-là puis le calibre d'un match de la NFL.
Pratiquement pas. C'est impressionnant. Joe Burrow est le fils d'un ancien Alouette, Jim Burrow, RDS, qui a fait un reportage assez intéressant là-dessus, sur cet ancien Alouette. Un gars qui a passé 3 ans dans le giron des oiseaux il y a plusieurs années. Mais quand même, si vous voulez choisir votre Tiger préféré, si vous êtes chauvin, ce sera donc LSU. T'as-tu des préférés, toi?
Ouais, moi, j'ai mis mes sous sur LSU. Fait que j'ai fait des paris en fin de semaine. Triple.
C'est ça. Ils ont fini premier, Clemson a fini troisième, donc l'avantage va aux Tigers de LSU. On disait ça parce que c'est Tigers de LSU contre Tigers de Clemson.
Absolument. Donc ce soir, c'est la grand-messe du football 20 universitaire. 20h, la finale des playoffs collégiales universitaires américaines. On regarde ça, on s'en reparle nous autres la semaine prochaine. Merci, Oli.
Bon football.